Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce 16 janvier 2018. Hélène Denis qui vous accompagne et qui salue bien bas. Jean-Sébastien Laliberté, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous avez l'air en pleine forme, le rhume vous a quitté.
Ah non, mais ne me portez pas malheur,
C'est pas mon but. Mais tant mieux, mais je vous souhaite que ça continue. Alors,
Nous sommes donc deux.
Oui, c'est vrai. Et tous ceux et celles qui ont le rhume, qui ont la grippe, qui sont malades, ben on est avec vous et on vous souhaite pour 2018. Il y en a qui continuent de se souhaiter bonne année, j'entendais ça dans les corridors. Alors, allez-y avec les éphémérides, Jean-Sébastien.
En ce 16 janvier, on débute notre chronique en 1547 à la cathédrale de l'Assomption de Moscou. Le grand-duc Ivan IV, dit Ivan le Terrible, est sacré premier tsar de toutes les Russies, tsar provenant, pour la petite histoire, du mot latin « César ». 1756, signature par la Prusse et l'Angleterre du traité de neutralité du Hanovre dans la guerre de 7 ans avec la France, qui perdra finalement le Canada. 1920, aux États-Unis, les ligues de tempérance triomphent avec l'entrée en vigueur de la prohibition de l'alcool, qui fera aussi la fortune du crime organisé. Toujours en 1920, 16 janvier, première réunion à Paris de la Société des Nations, où... au prix avec leur prohibition, les États-Unis sont absents, ceci expliquant peut-être cela. 1958, Lester Pearson devient chef du Parti libéral du Canada. 1969, place Wenceslas à Prague, l'étudiant Jan Palach s'immole par le feu pour dénoncer l'oppression soviétique. 1970, encore un 16 janvier, le Canada annonce sa conversion au système métrique. Quoique, en 2018, on peut encore se poser des questions lorsqu'on donne notre poids en livres et qu'on voit justement la livre étant spéciale à l'épicerie pour quand il est question de fruits et légumes ou de viande. 1976, pénurie de pommes de terre et début de panique en Belgique.
Ben, c'est sûr, hein? Le pays de la frite.
16 janvier, pardon, oui. 2001, un pétrolier équatorien s'échoue aux îles Galapagos. 700 tonnes de mazout sur un total de 9000 qui étaient contenus dans le pétrolier. Donc, 700 tonnes de mazout seront emportées vers le large. 2002, le rapport final sur l'accident du Concorde survenu en juillet 2000 confirme la présence d'une lamette métallique perdue par un autre avion environ 5 minutes plus tôt sur la piste d'atterrissage est à l'origine de la catastrophe aérienne qui a fait, on le rappelle, 113 morts. 2005, encore un 16 janvier, une Roumaine de 67 ans donne naissance à une petite fille grâce à une fécondation in vitro. Et en 2011, en France, Marine Le Pen succède à son père à la tête du Front National lors du congrès de Tours. Naissance, une seule naissance aujourd'hui, 16 janvier, l'inventeur du pneu démontable, André Michelin. Donc lui qui est né le 16 janvier 1853 et qui a quitté ce monde en 1931.
Je connaissais son nom, mais pas son prénom.
Je connaissais le surnom Bonhomme Michelin, je ne pense pas que ce soit de lui qu'il est question, mais bien du personnage de sa compagnie.
C'est tout?
Eh oui, c'est tout.
Merci donc, Jean-Sébastien. À la une de la presse, beaucoup d'exclusivité, grand festival des barmen bénévoles, entre guillemets, payés au noir. D'importants événements confient la vente d'alcool à une entreprise qui ne paie aucun salaire à ses serveurs, qui, à leur tour, ne déclarent pas leur pourboire. Vente de Juste pour rire, un géant américain entre en scène. Publicité sur Facebook et Google, le Canada privé de 700 millions estime une fiscaliste. Les trains de banlieue en arrachent. Et art, télévision, dérangeante ressemblance, une série jeunesse de Radio-Canada s'est-elle inspirée d'une populaire BD française? Un article d'Isabelle Haché, de nombreux grands festivals du Québec confient la vente de bière à un sous-traitant qui contourne les lois québécoises en recrutant des serveurs qui ne reçoivent aucun salaire mais se partagent les pourboires sans les déclarer, a appris la presse. Le Festival international de jazz de Montréal, le Grand Prix du Canada, le Festival Juste pour rire, les Francofolies, Oshiaga, Île Sonic et les célébrations de la Fête nationale à Montréal Québec et Laval sont parmi les organisations qui font affaire avec la caravane de la bière. Cette entreprise loue de l'équipement réfrigéré et fournit également la main-d'œuvre pour vendre de l'alcool aux festivaliers. Or, cette main-d'œuvre ne reçoit pas le salaire minimum auquel ont droit tous les travailleurs du Québec. Barmen, barmaid, serveurs et serveuses sont considérés comme des bénévoles, bien qu'ils travaillent pour une entreprise à but lucratif. Cette pratique contrevient à la loi sur les normes du travail. Si l'entreprise fait des sous, elle devrait rétribuer le travail effectué par des salariés. La loi sur les normes est d'ordre public. Personne ne peut s'y soustraire d'aucune façon, rappelle Marianne Plamondon, avocate associée chez Langlois Avocats et spécialiste en droit du travail. Le travail bénévole ne devrait pas exister au sein d'une entreprise à but lucratif, lit-on sur le site de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. D'autres critères permettent d'évaluer si une personne a droit à un salaire. Si elle doit se plier à un horaire de travail, par exemple, elle ne devrait pas être considérée comme bénévole. À la fin d'une soirée, les « bénévoles » entre guillemets de la caravane de la bière se partagent les pourboires versés par les festivaliers. Ces personnes sont tenues de déclarer les pourboires qu'elles ont reçus aux sous-traitants pour les fins de retenue à la source, et ce dernier doit payer les cotisations d'employeurs sur ceux-ci, souligne Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec. Or, les bénévoles de la caravane de la bière ne déclarent pas leurs pourboires à leur employeur, admet ce dernier, François Saint-Pierre. « C'est leur pourboire, je ne me mêle pas de cela. S'il faut faire des changements, on va les faire. » C'est un peu folklorique notre manière de faire, peut-être, point de suspension, dit François Saint-Pierre, propriétaire de la caravane de la bière. Pour la première fois en 12 ans d'existence, Igloo Fest, un festival de musique électronique qui se déroulera du 18 janvier au 3 février dans le Vieux-Port de Montréal, comptait faire appel cette année à la caravane de la bière. L'organisation a reculé après avoir été jointe par la presse jeudi dernier. Certains organisateurs de grands événements de Montréal ont confirmé faire appel à la caravane de la bière tout en s'abstenant de commenter nos informations. D'autres n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Le réseau des trains de banlieue pète de partout depuis le début de la nouvelle année. Les retards se multiplient, des trains sont annulés ou raccourcis, des passagers attendent dans des trains immobilisés en raison d'aiguillages défectueux. Le réseau vit un début d'année éprouvant, a reconnu hier le réseau de transport métropolitain RTM dans un avis à sa clientèle. Depuis le 1er janvier, en deux semaines à peine, le RTM a enregistré pas moins de 309 retards sur ses 6 lignes de train. Cela signifie qu'en moyenne, une vingtaine de départs sont retardés ou annulés chaque jour sur le réseau. Hier encore, le RTM a vécu une fin de journée chaotique lorsque des problèmes mécaniques de nature indéterminée ont cloué à quai des trains en partance pour Saint-Jérôme et de Montagne en pleine heure de pointe. Dans son avis à la clientèle hier, le directeur aux opérations du RTM, Stéphane Lapierre, attribue principalement aux conditions météorologiques extrêmes les pannes en série des deux dernières semaines. Selon les données du RTM, 81 % des 309 retards que les usagers ont dû subir depuis le 1er janvier dernier seraient liés aux conditions météo. D'aucuns ont attribué ces performances mitigées au nouvel opérateur Bombardier qui a pris en charge le fonctionnement de tout le réseau en juillet dernier. Le RTM assure de son côté que si certains retards peuvent être attribués à la courbe d'apprentissage des nouvelles équipes de train de Bombardier, ce n'est pas le cas pour la majorité. Nos équipes et partenaires de service travaillent jour et nuit, redoublent d'efforts et continuent d'être à pied d'œuvre afin d'assurer la bonne exécution de notre plan d'action hivernal, conclut le RTM. La mort d'un nourrisson relance le débat sur le temps de réponse des ambulanciers. Un bébé de 11 mois de Terrebonne, secteur La Plaine, est mort d'un arrêt cardiaque cardio-respiratoire vendredi. L'ambulance a mis 22 minutes à arriver de Repentigny, tous les véhicules de Terrebonne étant occupés. Quand l'appel d'aide a été fait, la plus haute priorité a été mise sur le cas, dit Stéphane Maillet, directeur des opérations chez Service préhospitalier Laurentie-de-la-Naudière. Normalement, c'est l'une de ces ambulances à Terrebonne qui aurait dû être dépêchée sur les lieux, mais aucune n'était disponible. Nous avons 4 véhicules à l'horaire, mais il nous en faudrait 2 de plus. On est en demande là-dessus depuis 2009, dit Stéphane Maillet, des services préhospitaliers Laurentie-de-la-Naudière. En 4 minutes, dit le capitaine Benoît Bilodeau des Affaires publiques de la police de Terrebonne, les policiers étaient, eux, sur les lieux et ils ont entrepris les manœuvres de réanimation. Ils étaient aussi équipés d'un appareil de défibrillation. Les ambulanciers de Repentigny sont arrivés 22 minutes après l'appel initial qui, comme c'est toujours le cas, a été géré par le Centre de communication centrale chargé de répartir les appels pour toutes les Laurentides et la Naudière. Terrebonne est en pleine effervescence, la population augmente, il y a beaucoup de jeunes familles, de naissances et les effectifs sont mal répartis, dit Mathieu Traversy, député du PQ. Il n'a pas été possible de parler au ministre de la Santé Gaëtan Barrette hier. Son attaché de presse, Catherine W. Audette, a écrit le courriel suivant. Tout d'abord, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches touchés par ce deuil. Il est important de souligner que les premiers répondants sont arrivés sur place en moins de 5 minutes. Considérant qu'une enquête du coroner est en cours, nous ne commenterons pas davantage sur ce dossier. Pour rattraper le retard informatique de la ville utilisant encore des logiciels datant des années 70, la Ville de Montréal évalue qu'il lui faudra 10 ans pour rattraper son retard en informatique. Les élus de la métropole ont poursuivi hier l'étude détaillée du budget 2018, dont l'adoption est prévue le 24 janvier. Le Service des technologies de l'information a expliqué devoir continuer à mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard majeur en informatique. Voile découpé d'une écolière, faux, dit la police. Une fillette de 11 ans a berné la police, ses enseignants et jusqu'au premier ministre canadien Justin Trudeau en assurant avec aplomb qu'un agresseur lui avait découpé son voile. Une dénonciation totalement fausse, a affirmé hier la police de Toronto. Après une enquête minutieuse, la police a déterminé que les événements rapportés ne se sont pas produits. L'enquête est close, a sèchement annoncé la police de Toronto après avoir interrogé plusieurs habitants des abords de l'école primaire, fréquenté par Kuala Noman et visionné les images de caméras de surveillance. La jeune écolière avait raconté qu'en allant à l'école à pied avec son frère, un inconnu avait découpé son hijab avec des ciseaux avant de prendre la fuite. La police de Toronto avait aussitôt dressé le portrait robot du présumé agresseur et ouvert une enquête pour crime haineux. Le premier ministre Justin Trudeau avait condamné fermement l'attaque présumée, comme d'autres responsables politiques. Un message qu'il n'avait toujours pas supprimé tard hier soir après la révélation d'une information inventée de toutes pièces.
Le quotidien, trop peu pour moi. Je veux tout casser, le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger, je désordonne l'ordre des choses, je mets à l'envers tous les endroits. Le quotidien, je n'aime pas ça, non, je n'aime pas, je n'aime pas. Tout le
Manquait plus que ça. C'est le titre de son album de 2005 qu'on vient d'entendre Sandrine Kimberlin avec la pièce Le Quotidien.
À la une du Devoir de ce mardi, une photo éloquente. Une amie de Jocelyn Vandal, l'un des sinistrés de Québec, constate les dégâts au sous-sol de la demeure inondée. Inondation à Québec. L'eau est arrivée comme une vague. Des sinistrés attendent l'aide du gouvernement avec un certain scepticisme. Vague de départ au PQ. Nicole Léger, François Gendron et Claude Cousineau ne solliciteront pas de nouveaux mandats. Entrevue, Fabien Deglise qui signe ce texte intitulé « L'utopie d'un tout fait de la somme de ses parties ». L'utopie d'un tout fait de la somme de ses parties. Pour Francis Wolff, l'individualisme ambiant peut s'éclairer dans le cosmopolitisme. Juste pour rire dénonce Québecor, l'entreprise de Gilbert Rozon dit que tout est fait pour nuire à la vente de la société et plomber sa valeur. Catalogne, la tutelle pourrait se prolonger, prévient Mariano Rajoy. Et Couillard s'oppose à une journée nationale contre l'islamophobie. Deux jours après la crue soudaine de la rivière Saint-Charles, les résidents de Duberger-les-Saules constatent l'ampleur des dégâts dans leur résidence et espèrent que l'aide promise par le gouvernement ne sera pas trop décevante. Le sous-sol de Jocelyn Vandal est un amoncellement d'objets brisés et souillés. Accessoires de pêche, meubles de jardin, boîtes de conserve, souvenirs d'enfance, seule une vieille affiche de clown sur le mur semble avoir été épargnée. Comme pour se moquer de lui. « Je vais l'acheter, je ne ris plus ». La maison de M. Vandal est située à environ 50 mètres de la rivière Saint-Charles, en plein cœur de la ville de Québec. Samedi soir, le cours d'eau a décidé de passer par le sous-sol de sa maison qu'il a rempli jusqu'à un bon mètre de haut. « L'eau est arrivée comme une vague », raconte l'homme, qui était à l'extérieur quand la rivière est sortie de son lit. « Je vois de l'eau arriver, une rivière de 4-5 pieds, c'est impressionnant. Je te jure que ça a sorti. T'es là, t'es figé, ça montait. » À Québec, plus d'une trentaine de propriétaires du secteur sont dans la même situation, dont plusieurs ont dû être évacués durant la fin de semaine. Et ils ne sont pas les seuls puisque pas moins de 37 municipalités ont vécu des épisodes d'inondation. Outre Québec, les eaux ont causé des dégâts notamment à Bécancour et à Drummondville, dans le centre du Québec, mais aussi dans les municipalités des cantons de l'Est, en Montérégie et dans Chaudière-Appalaches. Lundi, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé que le gouvernement viendrait en aide aux sinistrés, comme il l'avait fait pour les victimes des inondations du printemps dernier. À l'époque, pas moins de 291 municipalités avaient été touchées et 5 300 résidences inondées. En fin de journée, lundi, la coalition Avenir Québec a tenu à rappeler les ratés de l'opération d'indemnisation des inondations au printemps. Il y a encore environ 150 familles qui sont en attente d'un suivi administratif pour la construction de leur maison, a signalé la nouvelle députée Geneviève Guilbeault. On espère ne pas revivre le même cauchemar. En attendant la reconstruction et les indemnisations, le secteur était encore en bonne partie paralysé par les glaces lundi. Sur la rue Saint-Léandre, en particulier, des voitures étaient figées dans un impressionnant couvert gris et plusieurs rues environnantes étaient toujours bloquées. L'ancien chef d'Option nationale, Jean-Martin Hossan, peut désormais rentrer d'exil, disent des militants du Parti québécois, tout en pointant la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Cumulant plus de 20 ans de vie politique, Nicole Léger renonce à y briguer une nouvelle fois les suffrages le 1er octobre prochain. Les députés d'Abitibi-Ouest et de Bertrand, François Gendron et Claude Cousineau tireront également un trait sur leur carrière politique selon les informations du Devoir. Ancienne ministre de la Famille, déléguée de 1998 à 2001 et en titre de 2012 à 2014 et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 2001-2003, Nicole Léger fera le point sur son avenir politique à l'occasion d'une conférence de presse à Montréal ce mardi avant midi. L'annonce du départ de Mme Léger survient alors que Jean-Martin Hossan songe sérieusement à effectuer un retour sur la scène politique québécoise. En effet, l'économiste envisage un retour au sein du PQ, mais non sans condition, a-t-on expliqué au Devoir à 8 mois et demi du scrutin. La disponibilité d'une bonne circonscription dans la région métropolitaine fait partie du lot. « Les astres s'alignent », a dit un membre influent du PQ contacté par le Devoir lundi soir. Mais ce n'est pas encore attaché à 100%. Éducation, des investissements historiques, entre guillemets, mais insuffisants pour les écoles de Montréal. Malgré des investissements historiques pour rénover les écoles du Québec, les sommes annoncées sont encore insuffisantes pour répondre aux besoins des écoles montréalaises. À la Commission scolaire de Montréal, CSDM, on estime qu'à ce rythme, il faudra encore 10 ans pour résorber le déficit d'entretien. Et on ne parle même pas encore des agrandissements et des nouvelles constructions d'écoles pour répondre à la hausse fulgurante de la clientèle. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé lundi 740 millions de dollars pour rénover les écoles du Québec qui ont toutes des petits bobos. Ce sont plus de 2000 projets dans près de 1300 écoles qui pourront être entrepris cet été, quelques mois avant les élections. À la CSDM, Catherine Harel-Bourdon affirme d'emblée que les relations sont beaucoup plus faciles depuis le changement à la mairie de Montréal. La présence de la mairesse ce matin témoigne du fait qu'elle veut trouver des solutions pour les différents quartiers. Affirmant que l'école est au cœur de notre vie de quartier, la nouvelle mairesse, Valérie Plante, a même promis qu'il n'y aurait plus de nouveaux développements sans école, comme c'est le cas présentement pour Griffintown. Tous les nouveaux quartiers qui verront le jour à Montréal disposeront d'écoles, a-t-elle affirmé. Le projet d'instituer une journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie peine à recueillir l'appui de la classe politique québécoise. Le premier ministre Philippe Couillard s'y oppose. Le maire Régis Labeaume aussi, y voyant une mauvaise idée. À 8 mois et demi des élections générales, M. Couillard et M. Labeaume coupent court à un débat qui s'annonçait délétère pour le Québec, estime l'imam Hassan Guillet. « Je suis soulagé », a-t-il laissé tomber dans un entretien avec Le Devoir lundi après-midi. Pourtant, M. Guillet appuyait la demande du Conseil national des musulmans canadiens, CNMC, d'instituer une journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie le 29 janvier, soit le jour de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. Je ne cache pas ma déception. Je suis déçu. Mais que ça passe dans la zizanie, la chicane et l'amertume ou que ça ne passe pas, je préfère que ça ne passe pas, a-t-il dit froidement. Dans la foulée des élections référendaires sur la charte de la laïcité ou encore sur le port du niqab, la perspective de voir la désignation d'une journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie s'imposer comme la question à l'urne du scrutin du 1er octobre prochain l'effrayait. Il n'est pas question de différencier une forme de racisme parmi une autre, a dit Philippe Couillard. Régis Labeaume a dit regretter de voir le premier anniversaire de la tuerie être terni par un débat stérile. Les aliments transformés encore trop salés malgré les cibles de Santé Canada. 5 ans après avoir suggéré des cibles de réduction de sel à l'industrie alimentaire canadienne, Santé Canada estime que la grande majorité des produits transformés sont encore trop salés pour la consommation. Dans un rapport publié lundi, le ministère constate que seulement 14 % des catégories d'aliments ont respecté les cibles de réduction. Ces objectifs avaient été fixés en 2012, de concert avec l'industrie et les spécialistes du secteur de la santé. Des progrès importants ont cependant été constatés pour les fromages à pâte ferme, tels que le parmesan, de même que pour le poisson fumé, le tofu, le pesto et la pâte de tomate. 48 % des catégories d'aliments n'ont pas diminué le sel de façon importante et certains ont même augmenté leur teneur en sodium. Par exemple, les barres de céréales, le fromage à la crème, les croustilles, ainsi que les margarines sont encore trop salées selon le ministère. L'Association pour la santé publique du Québec s'est désolée de ces résultats et a encouragé le gouvernement à s'attaquer plus fermement au sel, le nouvel ennemi public. Enquête sur les femmes autochtones, il est temps de faire table rase, pense l'opposition. Les difficultés de l'enquête nationale sur les femmes autochtones ont assez duré de l'avis des partis d'opposition à Ottawa. Néo-démocrates et conservateurs estiment que le gouvernement doit s'en mêler et faire le ménage à la tête de la commission d'enquête. Hélène Denis qui vous accompagne et qui vous invite à rester des nôtres dans un petit moment, une chanson et aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
Tout ce qu'il me faut pour être heureux.
plus récent extrait de Jean-Marc Couture qui s'intitule « Dans mon cabanon ».
En une du Journal de Montréal, rien de pire. Il y a vraiment le BRRRR qui est écrit sur la photo qui accompagne cet article. Rien de pire qu'une inondation en hiver, comme le constatent des citoyens de Québec. Encore une fois, une photo impressionnante, éloquente, où on voit la pelle mécanique dans la glace, dans l'eau, des voitures prises dans la glace et des hommes qui sont là pour secourir les voitures, mais surtout les personnes qui sont dans ces problèmes-là. Pas de consommation à l'intérieur, pas de distribution à proximité. Les cégeps veulent se tenir loin du cannabis. Entre l'eau et la glace, les travaux pour défaire l'embâcle sur la rivière Saint-Charles ont donné des résultats encourageants. Deux jours après la crue soudaine de la rivière Saint-Charles à Québec, l'eau commençait à se retirer dans les rues affectées après que les autorités eurent donné le feu vert pour mener une opération extrêmement délicate aux abords de l'embâcle. Les gens devraient pouvoir revenir graduellement. On parle ici des travailleurs qui sont en train de nettoyer la glace, a déclaré Régis Labombe lors d'une visite en début de soirée sur le site hier, la première depuis le début du sinistre. Le maire de Québec a dressé un portrait positif de la situation alors que l'eau s'est abaissée de plusieurs dizaines de centimètres dans les rues. Toutefois, l'avenue Saint-Léandre et une partie de Marivaux demeuraient recouvertes de façon importante. Les travailleurs se relaient jour et nuit pour nettoyer le site et assurer la sécurité des lieux. Une brèche a été ouverte dans l'embâcle et la glace a été brisée en aval de la rivière pour rendre possible l'écoulement de l'eau. C'est l'enfer, c'est le calvaire de ta vie. T'es dans la saleté, la cochonnerie, dans la vase, tout est fini au sous-sol, a commenté un des sinistrés en après-midi. Selon lui, la situation est pire qu'en 1981, alors qu'une crue avait aussi surpris le quartier. Les gros véhicules ont la cote. À quelques jours du Salon de l'auto de Montréal, les pick-up, VUS et véhicules métis, entre parenthèses, crossover, tenaient le haut de l'affiche hier au deuxième jour du Salon automobile de Détroit. Du Big Three américain au géant allemand Volkswagen et BMW, en passant par les Japonais Toyota et Nissan, la plupart des grands constructeurs automobiles ont dévoilé l'un de ces gros véhicules très gourmands en carburant, et aux émissions polluantes plus importantes que les petites voitures. Les pick-up et VUS ne sont plus seulement des véhicules pratiques, ils sont de plus en plus considérés comme des voitures familiales, explique l'analyste Rebecca Lindland, pour justifier cette euphorie autour de ces véhicules revenus au premier plan depuis 3 ans, après avoir été délaissés par les Américains dans la foulée de la crise financière de 2008. Depuis, l'économie américaine a rebondi. Les prix de l'essence à la pompe et le taux de chômage sont au plus bas. Conséquence, les goûts ont de nouveau changé, donnant la priorité aux grosses voitures au détriment des petites, dont la demande est en forte baisse. L'an dernier, les pick-up, VUS et véhicules métis ont représenté 2/3 des 17,23 millions de véhicules vendus aux États-Unis. Le Salon de l'auto de Montréal ouvrira ses portes pour la 75e fois. Le 19 janvier prochain, il se déroulera au Palais des Congrès jusqu'au 28 janvier. pas de vente de cannabis près des écoles et des cégeps. Pour éviter d'inciter les jeunes à la consommation, la Fédération des cégeps veut que les points de vente de cannabis soient interdits à proximité des écoles, des cégeps et des universités. Il s'agit d'une des recommandations contenues dans le mémoire que la Fédération présentera aujourd'hui en commission parlementaire, dont le Journal de Montréal a obtenu copie. Le projet de loi sur le cannabis déposé par le gouvernement Couillard en novembre prévoit que la consommation de cannabis sera interdite sur les terrains des cégeps et des universités. La Fédération s'étonne toutefois que la possession de marijuana dans les établissements post-secondaires soit permise pour les étudiants majeurs et réclame plutôt l'interdiction complète pour tous les étudiants, quel que soit leur âge. La Fédération des cégeps est aussi préoccupée par les mesures de prévention à mettre en place et par les ressources à la disposition des étudiants qui pourraient développer des problèmes de consommation. Un médecin de Rouyn-Noranda plaide coupable d'avoir mal évalué sa patiente. Le docteur Alexandre Villot pourrait être suspendu pour une période de 3 mois pour ne pas avoir évalué adéquatement sa patiente. Il s'agit de la suggestion commune faite au Conseil de discipline du Collège des médecins, qui a pris l'affaire en délibéré pour rendre un jugement. Il n'est pas obligé de suivre la recommandation et a 90 jours pour rendre sa décision. Emmanuelle Corbeil-Châtillon est morte à l'âge de 27 ans, le 2 janvier 2014, après que son chirurgien, le docteur Alexandre Villot, eut annulé par téléphone un drainage. Un abcès était apparu à la suite d'une intervention chirurgicale. Le 31 décembre, le docteur Villot annule le drainage après avoir consulté un collègue, car selon eux, il ne s'agirait plus d'un abcès. Le 1er janvier, la patiente se présente de nouveau à l'hôpital où on lui fait des prises de sang. Les résultats sont transmis au docteur Villot. Pendant que Mme Corbeil-Châtillon est à l'hôpital, elle reçoit un appel en avant-midi du docteur Villot qui décide d'annuler une fois de plus le drainage et qui lui donne son congé. Elle est morte dans son sommeil 12 heures plus tard. Météo idéal pour les nids de poules. Nous ne sommes qu'à la mi-janvier et les automobilistes font déjà du zigzag autant sur les petites rues que sur les autoroutes pour éviter les nids de poules qui se creusent. L'hiver risque d'être long pour eux, alors qu'un autre redoux est annoncé cette semaine. La députée caquiste Geneviève Guilbeault a publié hier sur sa page Facebook une photo de sa petite-fille Capucine, née le 27 décembre. Celle qui a fait campagne dans Louis-Hébert à Québec lorsqu'elle était enceinte avait fait savoir que son conjoint Martin prendrait l'essentiel du congé parental afin qu'elle puisse se consacrer au dossier de sa circonscription. On a une photo du couple avec le petit bébé Capucine. Le pape François atterrit hier à Santiago du Chili pour sa 6e visite en Amérique latine, qui le mènera aussi au Pérou, deux pays où les églises locales sont en perte de vitesse, touchées par des scandales de pédophilie. Le souverain pontife a été accueilli à son arrivée vers 22h20 GMT par la présidente chilienne Michelle Bachelet, accompagnée de 3 enfants qui lui ont offert des fleurs. Le vent fort sur le tarmac l'a obligé à enlever sa calotte avant de descendre de l'appareil. Il a ensuite salué différents représentants de l'Église et des autorités. Peu avant, dans l'avion papal, François avait déclaré que le monde était à la limite du risque de guerre nucléaire, confiant « j'ai vraiment peur ». Il suffirait d'un accident pour tout précipiter. Le pape argentin s'exprimait au surlendemain d'une alerte aux missiles qui s'est avérée sans objet, ayant semé la panique à Hawaï, alors que la Corée du Nord laisse planer la menace d'une attaque nucléaire.
Elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras.
Et on vient d'entendre Marie-Pierre Arthur avec la pièce « Fil de soie ».
Allons-y donc avec les journaux régionaux dans le droit. Louis-Denis Ebacher signe un texte intitulé « Perdre un match, sauver une vie ». Luc Ouellet a beau avoir perdu en demi-finale, mais il a remporté le titre de « Héros du jour » lors d'un tournoi de curling dimanche à Montréal. Le pompier de Gatineau venait de subir la défaite en demi-finale à Baie-des-Fées. Pour faire passer la pilule, lui et ses équipiers du club de curling de Buckingham se sont ouverts une bière. Ce fut un bref instant de relaxation puisqu'une dame a lancé l'alerte. Un homme subissait à l'instant un infarctus sur la glace. Tout de suite, j'ai dit « Faites le 911, je suis pompier à Gatineau ». En arrivant auprès de l'homme, j'ai tout de suite compris qu'il subissait un arrêt cardiaque. Les réflexes ne se perdent pas à l'extérieur de la caserne. La victime ne pouvait être plus chanceuse dans sa malchance. Son secouriste, infirmier dans une autre vie, était pompier depuis 25 ans. L'établissement où se déroulait le tournoi était équipé d'un défibrillateur du même modèle que ceux qu'on retrouve dans les endroits publics de la ville de Gatineau. « J'ai massé et donné la respiration au monsieur en attendant l'ambulance », raconte M. Ouellet. Le premier répondant arrivé sur les lieux m'a dit de garder le lead car il voyait bien que je savais très bien ce qui se passait. Quand tu donnes un choc et que tu vois les yeux s'ouvrir, wow! Un ami de la victime semblait aussi connaître les bases des premiers soins, mais semblait plus nerveux. Le temps joue contre toi. J'ai décidé tout de suite de prendre le contrôle de la scène. Il a fallu une décharge pour faire battre le cœur de nouveau. La victime, affaiblie, est revenue à elle avant son transport à l'hôpital. Dimanche soir, le pompier de retour à Gatineau est revenu sur les événements de sa journée en regardant l'émission spéciale de l'Auto-Québec Célébration 2018 à la télé. Ma femme m'a dit que le monsieur avait, en quelque sorte, gagné son million. Il avait aussi gagné à la loterie. Chez les Ouellet, tout le monde a reçu sa formation en premiers soins. C'est obligatoire chez nous. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, ce sera à mes enfants de me le faire, ce massage cardiaque. Le pompier, qui comptera 25 ans d'ancienneté en 2018, constate que davantage de citoyens ordinaires sont aujourd'hui formés aux premiers soins, tant dans les institutions fédérales de Gatineau-Ottawa que dans les entreprises privées. Dans la tribune « Procès Lac-Mégantic », le jury se manifeste pour une première fois, même s'il n'en est pas arrivé un verdict après 5 jours de délibération. Le jury s'est manifesté pour une première fois lundi vers midi au procès du conducteur du convoi ferroviaire de la Montréal, Maine et Atlantique, ou Montreal, Maine and Atlantic, MMA, Thomas Harding, du contrôleur de la circulation ferroviaire, Richard Labrie, et du directeur de l'exploitation, Jean Demaître. Le jury doit rendre un verdict unanime pour chacun des 3 accusés à la suite du procès pour négligence criminelle causant la mort de 47 personnes le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. Tout comme pour les 2 autres accusés, la nervosité de Thomas Harding était grande lorsqu'il a été convoqué par le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure au palais de justice de Sherbrooke. C'est l'une des décisions les plus importantes de la vie de M. Harding. « C'est certain que c'est un moment important pour lui », explique son avocat, Maître Charles Chilson. Au 5e jour des délibérations, le jury n'était pas prêt à rendre un verdict, mais a demandé des précisions relatives aux droits. Il a demandé au juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure de lui expliquer de nouveau les concepts de doute raisonnable, de personne raisonnable, de personne prudente et raisonnable, de même que l'écart par rapport à cette personne. Est-ce possible, à travers un exemple ou une clarification des directives, de nous réexpliquer les concepts qui nous permettraient d'harmoniser notre compréhension collective? A demandé le jury composé de 8 hommes et 4 femmes. Le juge Dumas a convenu avec le jury, qui n'a manifesté aucun signe d'impatience ou de fatigue devant le tribunal, que leur tâche n'était pas simple. Prenez tout le temps nécessaire pour remplir votre tâche. Je ne veux pas que vous sentiez aucune pression, a d'abord mentionné le juge Dumas. Le magistrat a fait une relecture de certaines directives et apporté des précisions concernant les concepts demandés. Le doute raisonnable s'approche davantage de la certitude absolue que de la culpabilité probable. Si vous considérez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, ce n'est pas suffisant. Vous devez accorder à l'accusé le bénéfice du doute, a rappelé le magistrat. Le juge Dumas a souligné qu'il avait donné des directives avant, pendant et après la présentation de la preuve et de les considérer comme un tout, de même que les réponses données aux questions qu'ils ont posées. Ce sont des notions de base du système de justice criminelle. La notion de doute raisonnable n'est pas un concept facile à comprendre. Ils ont aussi posé des questions qui sont propres à la négligence criminelle. Je peux en percevoir qu'ils cherchent à consolider un consensus entre eux. C'est très difficile à ce moment-ci de percevoir leur décision. Nous avons vécu un procès complexe et une preuve importante, alors je crois que le jury cherche à accomplir son devoir de façon consciencieuse, explique Maître Chisholm. Le jury a aussi demandé de lui fournir un dictionnaire. Le juge Dumas a rapidement rejeté cette requête, étant donné qu'aucun dictionnaire n'a été déposé en preuve. Ne vous fiez qu'à la preuve qui vous a été donnée dans la salle d'audience. Utilisez le sens ordinaire des mots. Utilisez votre vocabulaire de tous les jours. Mais s'il y a un terme sur lequel vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à nous revenir, a indiqué le juge Dumas. À l'annonce d'une enveloppe pour le tribunal, une certaine tension était palpable. Mon client ne savait pas à quoi s'attendre. Le moment est difficile à décrire. Nous avions hâte de savoir ce qui en était. Depuis le début des délibérations, l'attente est difficile, mais M. Harding est content de voir que le jury prend sa tâche au sérieux et qu'il prend le temps d'analyser toute la preuve pour en arriver à une décision éclairée, dit Maître Chisholm. Charlie ou Charlie Bilodeau, l'Olympien de Trois Pistoles, c'est dans Le Soleil d'aujourd'hui, sous la plume de Carl Tardif. À sa façon, Charlie Bilodeau a écrit une page d'histoire en fin de semaine en devenant le premier sportif originaire de Trois Pistoles à se qualifier pour les Jeux olympiques. Sa partenaire Juliane Séguin et lui ont reçu leur billet pour participer à l'épreuve de patinage artistique en couple à Pyeongchang. C'est assez le fun ce qui nous arrive. Je suis un peu exténuée et mon timbre de voix ne reflète pas l'excitation qui nous habite, mais on comprend qu'il vient de se passer quelque chose de grand pour nous, disait-il à l'autre bout du fil. Le couple Séguin-Bilodeau a pris le deuxième rang des championnats canadiens samedi à Vancouver, derrière les doubles champions mondiaux de 2015 et 2016, Megan Duhamel et Eric Radford. Cette performance leur a ouvert la porte de l'équipe olympique qui a été confirmé dimanche. Un troisième couple canadien sera aussi du rendez-vous. C'est à la une du Soleil, Marc Allard, un projet de retraite à l'eau. Pierre Aubin et Thérèse Jobin se réjouissaient de voir enfin une pancarte vendue devant leur maison de l'avenue Saint-Léandre, près de la rivière Saint-Charles. Il ne leur restait plus qu'à passer chez le notaire, puis à déménager dans un condo pour amorcer leur projet de retraite. L'année avait bien commencé, raconte Mme Jobin. On apprend qu'on va être grands-parents. La maison se vend, on trouve notre condo. Et là, point de suspension... Et là, le sous-sol de la maison est inondé. L'acheteur s'est retiré, il ne veut plus acheter, indique l'agent immobilier Pierre Paradis. Samedi après-midi, quand un embâcle s'est formé sur la Saint-Charles, inondant une cinquantaine de bâtiments dans le secteur du Berger-les-Saules à Québec, M. Aubin et Mme Jobin ont vu l'eau monter sur l'avenue Saint-Léandre. Au départ, leur maison semblait avoir été épargnée. Elle n'est pas située en bordure de la rivière, mais de l'autre côté de la rue. En soirée, l'eau a toutefois submergé leur drain agricole et elle est entrée par le sous-sol. Lundi, la maison de Pierre Aubin et Thérèse Jobin faisait elle aussi partie de la zone sinistrée derrière un périmètre de sécurité où on peut voir plusieurs voitures figées dans l'eau glacée. La Saint-Charles s'écoulait par l'avenue Saint-Léandre. Maintenant, c'est la rivière Saint-Léandre raille Thérèse Jobin. Dans le sous-sol de la maison, l'eau monte à peu près à la hauteur des genoux. Le couple y avait aménagé un logement avec une entrée indépendante. Mais il n'y avait plus de locataires puisque les propriétaires s'apprêtaient à déménager. M. Aubin ne croit pas être dédommagé par les assurances habitation qui couvrent très rarement les inondations considérées comme une catastrophe naturelle. « Mon agent a dit « je vais regarder », mais ne te fais pas d'illusions. Ça veut dire que tout ce qui nous reste à faire, c'est de payer pour réparer le sous-sol, dit-il, la voie nouée. » Pierre Aubin habite cette maison depuis 42 ans. Son père était propriétaire d'un immeuble à logement voisin et du terrain sur lequel M. Aubin a fait construire sa maison. Il en a pris très soin au fil des années et a fait plusieurs travaux. C'est la deuxième fois que son logis est inondé à cause d'un embâcle sur la rivière Saint-Charles. Il se souvient d'avoir reçu environ 4 pieds d'eau dans son sous-sol en 1981. Il avait jeté les meubles qui s'y trouvaient, nettoyé les pièces de fond en comble et souhaité que ça ne se reproduise jamais. Avant de mettre sa maison à vendre, il avait obtenu un document de la Ville de Québec montrant qu'elle n'était pas située dans une zone inondable malgré sa proximité avec la Saint-Charles. La compagnie du chemin de fer Atlantique et Saint-Laurent, SLEA, a pu reprendre ses activités malgré l'effondrement du pont ferroviaire du secteur Brampton à Sherbrooke. C'est dans la tribune d'aujourd'hui. Ces convois peuvent emprunter les rails d'autres transporteurs par train circulant dans la région, assure Claudine Bois, conseillère en communication chez SLEA à Montréal. Alors, je vous souhaite une agréable journée. C'est le mardi 16 janvier 2018, plus doux aujourd'hui. Alors, profitez-en pour mettre le nez dehors, mais pas avant d'avoir fini d'écouter cette émission en cours. À venir, les actualités culturelles, bien sûr, nous parlerons du décès tragique de la chanteuse de Cranberries, Dolores O'Riordan, irlandaise d'origine, et puis d'autres nouvelles encore d'ici la fin de l'émission.